Il est 19h sur le 101.5 de Radio G, l'heure que vous souhaitez qu'il est quand vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Il est 19h et c'est la case de Seb. Attention, générique.
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. C'est la case de Seb et ce soir, je vous accueille avec une émission, avec une petite interview. Alors, j'ai beaucoup de copains, mais j'ai beaucoup de copains qui ont du talent surtout. Et comme moi, je ne sais pas dessiner, j'ai toujours l'habitude d'essayer de les mettre un petit peu en avant. Et les copains, ils pourront vous dire que je ne parle pas de leurs albums quand je les ai pas aimés. Et du coup, là, j'ai super adoré. C'est une série de 4 albums, dont le 4e est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Sous les arbres. C'est publié aux éditions de La Gouttière et c'est scénarisé, dessiné et créé par Dave. Et le mieux, c'est quand même que ce soit lui qui vous en parle, avec une petite interview que je vais vous laisser découvrir. Alors, je m'excuse déjà de la qualité de l'interview. C'est quelque chose qu'on a fait en ligne sur Discord et du coup c'est un petit peu chaotique parfois, mais continuez de l'écouter, c'est vachement bien.
Bonjour, je m'appelle Dave, je suis auteur de bande dessinée depuis 21 ans. Je n'ai fait que de la BD dans ma vie, en particulier pour la presse et aussi pour la jeunesse.
Ok, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la bande dessinée?
En fait, je dessine des bandes dessinées depuis que je suis tout petit. Mes premiers souvenirs, ça remonte vraiment au CM1, CM2, où je faisais mes premières bandes dessinées. Et j'ai continué au collège. Et puis, quand j'étais au collège, j'ai fait mon premier festival de bandes dessinées dans la région de Cholet. C'était au festival de Chalon-sur-Loire, où mes parents m'avaient emmené. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des auteurs dont c'était le métier. La bande dessinée était un vrai métier. Donc à partir de là, je me suis vraiment mis à fond sur la bande dessinée, c'est-à-dire à recopier un petit peu les personnages que j'avais bien aimés dans les BD, à essayer de les faire bouger, tout ça. Et à un moment, je me suis mis à faire bouger mes propres personnages. Et puis très vite, je suis arrivé au lycée. Au lycée, je suis rentré dans les journaux lycéens des différents lycées que j'ai fréquentés. Et ça me permettait de faire de la bande dessinée à l'école. Et puis c'est là aussi que j'ai rencontré la bande Pinolof, qui est un fanzine, un magazine amateur à Cholet, qui sont devenus les copains qui m'ont accompagné pendant toutes ces années depuis. Donc tout s'est fait vraiment à cette période-là, je dirais au lycée. Ça a été vraiment la découverte du métier par la petite porte, donc de la presse lycéenne, du magazine amateur, et par le biais de ces choses-là, enfin, j'ai été amené à rencontrer d'autres auteurs de bande dessinée sur les festivals à qui j'ai montré mon travail jusqu'au jour où un de ces dessinateurs m'a dit écoute, j'ai besoin je cherche quelqu'un, voilà, est-ce que tu veux faire de la bande dessinée? Et puis c'est comme ça que ça a commencé pour moi, quoi.
Et tu as commencé par quoi du coup, juste le dessin ou pas, ou une partie du scénario aussi?
Alors sur le premier album, c'était que le dessin, c'était Django Renard avec Kurt Riedel, qui est sorti aux éditions Bambou en 2002. Et là, je faisais que le dessin. Donc, clairement, c'était un projet de Kurt. Et puis en même temps, donc, j'ai commencé à travailler pour la presse BD, c'était L'Enfeust Mag, où là, c'est Arleston qui m'écrivait une série gag qui s'appelait Flip du Store, qui apparaissait dans le journal. Et en fait, Arleston a très vite n'a pas eu le temps d'écrire beaucoup de gags. J'ai repris l'écriture de la série dans la presse. Moi, ça m'éclatait beaucoup. Et puis, et puis bah, du coup, j'avais envie de faire autre chose, quoi. J'avais envie de, bah, en fait, j'avais envie d'écrire mes propres histoires. Donc après Django, je me suis vraiment focalisé sur les histoires courtes, les gags en une page dans la presse BD, dans Fausse Mag. Et puis c'est là que j'ai creusé mon petit sillon d'auteur BD que je faisais surtout après le dessin et le scénario. Donc ça m'est arrivé après toute ma petite carrière, ça m'est arrivé de dessiner pour des scénaristes. Et même ça m'est arrivé moi d'écrire pour des dessinateurs. Mais globalement, ce que je préfère, c'est quand même écrire et dessiner mes propres histoires.
Ok. Ça s'apprend, ça se travaille à l'école. Tu es principalement autodidacte.
Alors je suis complètement autodidacte en fait, parce que moi j'ai fait à l'école, j'ai fait art plastique, un peu d'art appliqué, et à l'époque il était hors de question de faire de la bande dessinée. C'était aussi avec le dernier. Parce que maintenant dans ces mêmes écoles, les élèves font de la BD aussi pendant les cours d'art appliqué, donc ça a beaucoup changé pour ça, heureusement. Pour eux. Mais non, moi je me suis formé sur le tas grâce aux fanzines, en fait, en particulier, parce que dans le magazine qu'on avait, qui s'appelait donc le Pinolove Mag, je devais rendre tous les 3 mois, je devais faire des pages. Donc j'écrivais mes propres histoires, je les dessinais, et en fait, bah, c'est comme ça qu'on apprend, quoi. C'est en faisant des pages. Tout simplement, ça vaut pour le dessin et pour le scénario. J'ai pas lu de livre sur comment écrire des histoires, ça s'est fait plutôt naturellement, voilà. À essayer de comprendre un peu comment marchent les films qu'on aime bien, les histoires qu'on aime bien. Et puis surtout, c'est aussi l'envie. Surtout, moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Ça valait donc bah, pour la BD surtout. Puis avant ça, quand j'étais encore au lycée, j'étais animateur en centre aéré. Donc, bah, c'est pas, j'avais des gamins, il fallait les divertir. Donc, je racontais des histoires, on inventait des histoires avec les autres animateurs. Des histoires qui allaient accompagner les enfants pendant toute la semaine. Et donc, ben moi, c'était naturellement, j'avais envie de continuer à écrire des histoires en BD et toujours pour des enfants. Beaucoup, c'est un public qui m'a toujours accompagné, qui m'a toujours plu.
Ouais, t'as presque pas fait, en fait, d'album adulte.
Alors, j'ai pas fait du tout, même, on peut le dire, j'ai pas fait un seul album adulte. Bah, déjà, je pense que, parce que ça m'intéresse pas trop. Voilà, je dirais. Ça m'intéresse pas trop. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui le font très bien. Et puis, ouais, non, c'est pas le genre d'histoire qui m'intéresse. Voilà, de faire des histoires plus adultes, plus contemporaines. Des fois, j'ai des envies, hein, ça m'est arrivé. J'ai des pitchs d'histoires qui traînent dans mes archives de BD. Mais à chaque fois que j'ai voulu m'y mettre, ça m'a lassé très vite. En fait, je pense que moi depuis des années, je suis vraiment axé sur la jeunesse. Enfin, c'est quelque chose qui m'éclate. Et peut-être que plus tard, j'aurais envie d'aller sur des choses plus adultes. Mais là, actuellement, c'est vraiment plus la jeunesse. Et ça s'est pas fait naturellement non plus. Hein. C'est-à-dire que j'ai commencé par clairement par de l'humour. Les premières pages, c'était du gag, c'était des parodies, des histoires courtes parodiques de films et tout. Donc, c'était du gag, des parodies, donc beaucoup d'humour pendant des années. Et puis, quelques petits essais d'albums jeunesse, en particulier chez Soleil, une série qui s'appelle Les Derniers Mots. Et puis, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'est ça que j'avais envie de faire, quoi. Donc je continuais l'humour parce que je travaillais pour la presse et on avait besoin de séries gags, mais au fur et à mesure je me suis vraiment dirigé naturellement vers la jeunesse, quoi. Avec un trait un peu à la Disney. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de creuser, moi, de mon côté. Donc voilà, par contre les projets adultes ont toujours été mis de côté. Franchement, j'en ai pas écrit des masses, mais ils sont là. C'est-à-dire que je me dis peut-être un jour je les ressortirai, mais c'est pas du tout au programme pour l'instant. Quoi. Et même à développer, c'est-à-dire que je pourrais aussi les écrire pour les faire dessiner par quelqu'un d'autre, mais en fait, à les développer, je m'ennuie, en fait. Donc, je préfère pour l'instant mettre toute mon énergie sur la BD jeune.
Ok. Il y a quelques instants, tu mentionnais Disney. J'allais venir sur ce bord-là. Parce que tu ne dessines quasiment pas d'humains, principalement que des animaux. C'est dû à l'influence Disney ou pas?
Alors, dans mes BD, j'ai fait de l'humain au début là, pour la parodie, justement. Et puis, ça m'amuse pas trop, en fait. Enfin, ça m'amusait sur les parodies, parce que c'était pour la presse, que c'était des personnages en rapport avec le journal. Mais en termes de création pure, quand je dessine naturellement des animaux. C'est eux qui m'amusent. C'est eux que je m'amuse à faire vivre le plus dans mes carnets de croquis. C'est-à-dire, je remplis les carnets de croquis de dessins sans aucune volonté de les développer après. C'est juste pour le plaisir. Et en fait, je me rends compte que juste pour le plaisir, naturellement, je dessine des animaux. Donc, du coup, ça me semble normal de les mettre en avant dans les albums. Y a de temps en temps des pages d'humains. Et en fait, je me sens limité, en fait. Quand je commence à faire des animaux, des humains, pardon, je me trouve limité dans ce que je pourrais leur faire vivre et tout. Ce qui est idiot, hein, parce que c'est la même chose. En fait, je raconte, moi, avec des animaux, des histoires que je pourrais faire avec des humains. Sur la série Sous les arbres, par exemple, les albums, c'est vraiment des sentiments humains, des relations humaines, mais transposées avec des animaux. Et je peux pas m'empêcher de penser que ce serait moins sympa si c'était des humains qui les vivaient. Pourtant, c'est complètement des histoires humaines.
Et est-ce que c'est plus difficile d'arriver à faire passer une émotion justement avec des personnages animaux qu'avec des humains ?
Non, parce que je pense que après, pour moi, c'est vraiment naturel. Hein. C'est-à-dire que je me pose pas la question, en fait. Moi, j'ai grandi avec Disney, comme beaucoup de gens de ma génération. Rock et Rocky, Basile, les détectives privés, Robin des Bois. Hein. On est habitué à voir des animaux parler. Donc, ça me semble naturel de les faire vivre, de les faire causer. Hein, parce que c'est pas quelque chose qui me choque. Donc, en fait, c'est vrai que je me pose pas du tout la question. Je leur fais raconter ce que je veux, en fait. Je pense que la difficulté, c'est plus, en fait, pour moi, c'est de faire raconter la même chose à des humains. Je pense que ça n'aura pas la même poésie. Je pense que c'est surtout ça, en fait. Il n'y aura pas la même douceur, il n'y aura pas la même poésie. Là, c'est vrai que, sur Sous les arbres en particulier, je vois que les gamins, ils aiment bien voir les petites souris, les petits écureuils qui jouent ensemble. Si je les remplaçais par des gamins qui jouent ensemble, ça marcherait aussi, mais ce serait moins doux, voilà, moins poétique, je pense.
Ok. Bon, puisque tu as enchaîné déjà tout seul, est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse de Sous les arbres? Comment t'es venu l'idée de cette série?
Alors, elle est venue, c'est une bonne question. Alors, elle est venue au début d'une conversation. Avec mon grand copain Cyril Trichet, qui est auteur de bande dessinée Fils Soleil. On va souvent à Disneyland, lui et moi. Et en fait, moi, je venais de faire un album en crowdfunding, un Internet Proti, ça s'était très bien passé, donc j'étais à fond dans cette dynamique, en disant, il faut qu'on fasse quelque chose en crowdfunding et tout ça. Et puis, Cyril était intéressé, lui, ça fait des années qu'il bosse sur sa série Les Arcanes du début de minuit, chez Soleil, et il était intéressé pour faire autre chose. Et on s'était dit, et pourquoi pas faire ensemble un projet en financement participatif. Et donc, on a parlé de ça sur le trajet pour aller à Disneyland. Donc, on était déjà dans un mood un peu Disney. Et on s'est dit, alors, c'est ça, il faut faire un truc simple. Il faut faire un truc court, donc, histoire courte. Simple, pas de gros décors, donc, dans la forêt. Donc, des animaux, un truc sympa à dessiner. Donc, du coup, là, on a commencé à travailler là-dessus. Et on s'est dit... mais ça a été très vite, hein, c'était le temps d'un trajet en fait. Et on s'est dit, voilà, ça, on pourrait faire par exemple chacun une saison. Donc moi l'automne, lui l'hiver. Alors pourquoi ça? Parce que lui avait envie de dessiner de la neige. Et puis moi j'aimais bien les couleurs automne, donc j'avais envie de faire ça. Et on s'est dit, voilà, on ferait ça. Et puis si ça marche, ben, on fera un tome 2 avec dedans le printemps et l'été. Donc on s'est chauffé tout le week-end à Disney là-dessus. Là, on en parlait dans les files d'attente et tout. Donc on avait vraiment envie de faire un hommage. Clairement, c'était un hommage à à Disney, quoi, tout simplement, au dessin animalier Disney. Et puis, voilà, on est rentré chez nous, le temps est passé, on a continué de parler de ce projet, moi j'ai commencé à écrire les histoires. Il n'avait pas le temps de la développer de son côté, donc du coup, il y a un moment, je me suis dit, est-ce que je peux reprendre le projet tout seul? Parce que moi j'avais écrit à ce moment-là ma version de l'autre, l'histoire de Monsieur Gonf. Je lui ai demandé si je pouvais si je pouvais reprendre le projet tout seul, il m'a dit banco. Et puis en fait, dans la foulée, j'ai présenté le projet. J'avais quelques pistes pour les saisons d'après et j'ai parlé du projet à La Gouttière derrière, quoi. Et La Gouttière a signé le projet dans la foulée, donc ça a été très 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 vite.
Et ils t'ont suivi tout de suite ou ils ont aussi mis un petit peu leur nez dedans chez La Gouttière?
Alors pas du tout, en fait. Ils m'ont laissé les clés de la maison, c'est-à-dire que moi le premier album, c'était Monsieur Gonf, que j'aurais présenté. Je l'avais entièrement écrit. Et il était écrit, storyboardé, prêt à être dessiné. Donc, du coup, il n'y avait plus rien à faire. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de retouche dessus. L'album est sorti exactement comme il avait été écrit. Et puis, en fait, la seule chose que moi, je leur ai demandé, c'était, en fait... ils m'ont demandé déjà combien je voulais en faire. Je me suis dit, comme c'est les saisons, je vais en faire. Ils m'ont dit, d'accord. Et ils m'ont dit, en fait, exactement... Il m'a dit, si les trois suivants sont comme la première histoire, on prend la série en entier. Et donc, je leur ai dit, dans ce cas-là, laissez-moi le temps d'écrire les quatre histoires, donc les trois suivantes. Et puis, et je commencerai à faire le premier album quand les trois histoires suivantes seront écrites. Ça nous permettra de savoir par quel album on commence, et puis moi, d'organiser un petit peu la série, quoi. Et donc, ils m'ont laissé faire pendant 2 ans. Pendant 2 ans, moi, je bossais sur un album chez Delcourt, je bossais sur les As de la Jungle, c'était vraiment de la commande. Et en parallèle, j'écrivais les albums de Sous les Arbres. Et puis, au bout de 2 ans, j'avais 3 albums entièrement storyboardés. J'avais l'automne, l'hiver et le printemps qui étaient écrits. Et j'avais le pitch de l'été. Enfin, de l'idée, je savais où j'allais, je savais ce que j'allais raconter, mais c'était un peu trop long, ça me plaisait pas. Donc du coup, et puis là, ça faisait 2 ans qu'ils attendaient. Maintenant qu'on sait où tu vas, ce serait bien de lancer l'album. Donc on a lancé l'automne, j'ai fait l'automne, et puis le scénario de l'été continuait à traîner un petit peu. Donc finalement, on a fait l'hiver après. Et puis après l'hiver, moi, j'ai écrit l'été, là, ça s'est débloqué. J'ai fait l'été, on a sorti l'été. Et on a gardé le printemps pour la fin, parce que l'éditeur trouvait que sur les 4 pitchs, sur les 4 histoires, il trouvait que le printemps, c'était... émotionnellement le plus fort, qu'il fallait du coup le garder sur la fin. Donc moi ça m'allait très bien. De toute façon, il n'y a pas d'ordre pour les albums, on les lit dans l'ordre qu'on veut, comme c'est des histoires complètes à chaque fois. Et puis voilà, quoi. Donc du coup, je crois qu'on a signé ensemble en septembre 2017, et le premier album est sorti 2 ans plus tard, en 2019. Et là, après, toutes les histoires étaient prêtes. Donc, au moment où c'était lancé, j'avais plus qu'à les dessiner. C'était hyper confortable.
Effectivement. Tu parlais d'émotions fortes sur le dernier. Alors, je laisserai les auditeurs le découvrir. Mais chaque album a une espèce de tristesse, de mélancolie. Très particulière, c'était voulu dès le début, cette sensation-là?
Alors c'est intéressant parce que t'es le premier à mettre le doigt dessus. Voilà. C'est effectivement... alors certains diront c'est de la poésie et tout ça, mais en fait, avec beaucoup de recul, je me suis rendu compte en cours de route, ça n'a pas été écrit pour... mais je me suis rendu compte que c'était des histoires sur la solitude, globalement. Monsieur Grumpf, le blaireau de l'automne, il est... C'est un vieux ronchon qui aime être tout seul. Le deuxième, le renard, c'est un renard qui est tout seul face à une demoiselle qui l'impressionne un petit peu. Le troisième, c'est l'été. Pareil, une personne qui est toute seule dans sa vieillesse. Et puis là, c'est le sanglier, c'est un papa qui est aux prises avec son gamin et qui est désarçonné parce qu'il ne sait pas comment s'en occuper, quoi. Donc à chaque fois, c'est vraiment des albums sur... des personnages qui soit ont envie d'être tout seuls, soit sont tout seuls face à quelque chose. Donc oui, il va y avoir une sorte de mélancolie qui s'installe probablement à cause de ça, mais heureusement, tout se termine bien. voilà, ce n'est qu'un terreau pour construire d'autres histoires plus mignonnes, avec une autre émotion. En fait, j'ai essayé de faire en sorte que les quatre histoires soient différentes et que ça traite de choses différentes, un peu plus peut-être un peu plus mignonne au début, même s'il n'y avait pas vraiment de début. Car Monsieur Grumpf, on est vraiment sur l'entraide entre les voisins, la solidarité. Sur le 2 avec le renard, on est plus sur l'histoire d'amour et puis comment on peut être maladroit quand on rencontre quelqu'un. Donc ça amène des gags aussi. Et puis sur le 3, on est plus sur un album un peu plus adulte, finalement, où le thème c'est le retour à l'enfance. Et ça reste des albums pour les petits, mais par exemple, quand on fait un album sur le retour en enfance, forcément les petits, ça les touche pas. C'est des albums, en fait, moi, que j'ai écrits pour les parents au début. C'est des histoires qu'on lit aux enfants avant de se coucher. Donc, effectivement, les enfants vont y trouver leur compte. Hein. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion. Normalement, on ne s'ennuie pas. Enfin, ils ne s'ennuient pas. Et puis, voilà. Mais par contre, il y a une double lecture pour les parents. Non, c'est ça que j'ai essayé de faire sur tous les albums, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment le fil de la série. C'est que c'est pas une série pour les enfants, c'est une série pour les parents. Hein. Pour que même eux prennent du plaisir à la lire. Aux enfants. Ils verront pas les mêmes choses, mais globalement, ils se retrouveront autour de la même émotion, pardon, ou des émotions différentes, d'ailleurs, pendant la lecture de l'album.
Et puis, c'est un autre point qu'il y a en commun entre ces quatre albums, c'est que c'est l'échange. Et c'est le fait que les enfants lisent à leurs parents reste dans la thématique de l'échange de plusieurs générations à chaque fois.
Oui. Et puis... j'avais pas pensé forcément à l'échange, hein, mais oui, c'est ça. Moi, j'avais vraiment envie que ce soit des albums où autour de on se retrouve le soir. Pour moi, c'est l'album idéal à lire avant de se coucher. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai des retours comme ça de lecteurs en festival où une maman me racontait il n'y a pas si longtemps que son fils veut. Toujours l'histoire de Monsieur Grumpf, donc c'est l'automne, le soir, mais genre il l'a lu 50 fois, quoi. Et il l'avait toujours le soir, mais il ne faut pas que ce soit maman qui lui lise, c'est forcément papa. Parce que papa ne fait pas les mêmes voix, ils n'ont pas du tout la même approche de lecture, et le gamin n'aime pas la version de maman, quoi. Donc c'est. Il y a des choses qui se font qui, moi, m'échappent complètement, hein, bien sûr. Mais je trouve ça hyper rigolo, c'est hyper vivifiant en festival de rencontrer les petits, les adultes qui ont lu les bouquins, de voir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont ressenti. Et puis voilà, ces petites anecdotes de lecteurs, le fait de faire les voix, de choisir un album pour telle ou telle raison. J'avais deux petites filles qui sont venues me voir en salon. Leur maman leur ils avaient les trois premiers albums à la maison, leur maman leur a dit d'en choisir un chacun pour la dédicace, et elles ont choisi l'album sur l'été et l'album sur l'hiver. Et j'ai dit, c'est marrant, vous n'avez pas pris Monsieur Grumpf, alors souvent c'est celui que les enfants préfèrent. Et la maman dit, bah oui, c'est pourtant celui qu'on lit le plus à la maison, mais elles ont choisi ces deux-là. Alors je leur ai demandé pourquoi, et les deux filles m'ont répondu, moi j'aime la neige, l'autre, moi j'aime le soleil. Donc c'est encore des choses que moi qui m'avais échappé.
Non, mais c'est le côté très brut des enfants.
C'est ça, mais c'est super. Du coup, c'est vraiment hyper hyper pur, quoi, dans l'échange. Et puis c'est vraiment intéressant, là, en plus avec la sortie du 4, d'avoir des retours d'enfants sur l'intégralité de la série maintenant, et puis aussi des retours des parents, voilà, qui ont lu l'album. Et puis voilà, je n'en dis pas plus. Il vient de sortir. Enfin, il n'est même pas encore sorti.
Il sort demain, c'est ça.
Voilà, c'est ça, vendredi.
Demain, au moment où on enregistre cette interview.
C'est ça. Donc il y a 3 mois au moment où c'est diffusé.
Non. Peut-être faire un mois quand même. un truc qui, alors je te lance pas des fleurs hein, pour le plaisir, mais ton dessin est toujours hyper doux. T'as des couleurs qui s'accordent de manière très très bien au thème à la fois des saisons et de l'histoire. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de tes techniques de travail? Tu travailles en numérique, en tradi, comment tu...
Alors en fait c'est un mélange, c'est-à-dire que c'est la première fois, donc c'est la première fois que je teste cette technique-là. C'est venu au fur et à mesure, c'est-à-dire que moi pendant des années je voulais faire justement des albums à la Disney mais j'étais bloqué par la technique. J'arrivais pas à trouver le truc que je voulais. Et puis voilà, j'ai trouvé à un moment le crayon que je voulais, donc un feutre pinceau. Donc les planches sont faites sur papier, avec des feutres pinceaux qui permettent d'avoir des traits plus fins, plus épais, qui permettent de donner beaucoup de rondeur et de dynamisme au personnage, beaucoup plus que ce avec quoi je travaillais avant. Je travaillais avec des crayons billes avant. Donc c'était très très bien, mais c'était pas pratique pour donner un peu de rondeur au personnage. Donc là, j'ai utilisé cet outil-là. Là-dessus, je rajoute de l'aquarelle, donc c'est de la vie de gris. Donc mes planches, à la fin, sont au niveau de gris, en fait. Et c'est scanné et après je fais des couleurs à l'informatique, et en fait les couleurs informatiques sont hyper simples, c'est vraiment souvent des aplats, quelques dégradés mais pas trop d'effet, parce qu'en fait comme il y a déjà de l'aquarelle sur le dessin, je préfère que voilà qu'on profite un petit peu des choses que moi j'ai pu faire sur papier. Donc sur le papier, il y a de l'encre noire, il y a de l'aquarelle grise, il y a du crayon en papier, un crayon de bois, comme on dit chez nous en Maine-et-Loire. Et donc voilà, j'essaie de garder au maximum le côté un peu, je dirais, pas charnel, mais le côté réel de la page, quoi. Voilà. Je veux pas que le numérique écrase ça. Donc les couleurs, voilà, les couleurs sont très simples. Et puis, donc elles sont mixées avec les pages qui elles sont grises. Et puis par-dessus tout ça, donc c'est de la cuisine, hein, voilà. Je rajoute un filtre papier. Alors un filtre papier, c'est, en fait, c'est un vieux papier à grains, qui est très contrasté. Tout ça. Puis je le mets par-dessus. Et en fait, du coup, ça fait ressortir le grain du papier, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on a l'impression que le dessin a été fait sur un papier à grain, ce qui n'est pas du tout le cas. Et du coup, le noir n'est pas tout à fait noir, la couleur est un peu chamboulée par ce grain-là. Et du coup, c'est pas mal, ça apporte un peu de. Donc, ça casse la froideur de la couleur informatique. Voilà. C'est juste un retour au papier. Enfin, moi, c'est ça que j'avais vraiment envie de faire sur cette série-là, c'était quelque chose de. Qu'on puisse toucher, quoi, qu'on puisse sentir. Je voulais pas faire des couleurs informatiques qui sont toujours un peu froides, comme ce que je faisais sur mes albums d'avant, qui fonctionnaient très bien sur les albums d'avant. Mais sur ces albums-là, sur Sous les arbres, je voulais qu'on se rapproche au maximum des albums de ma jeunesse, les vieux livres d'illustration de quand j'étais petit, où on voyait. Il y avait un coup de pinceau, on voyait le grain du papier. Voilà, je voulais vraiment essayer de me rapprocher de ce genre de.
Ça remet de la texture sur la page, en fait. Ouais.
C'est ça, c'est exactement ça. Enfin, c'est rajouter de la texture et puis garder au maximum la trace des outils que j'ai utilisés. Donc, on voit sur les pages qu'il y a du crayon, qu'il y a de l'aquarelle. C'est même aussi là-dedans, dans cet esprit-là, qu'on a fait, par exemple, les pages de garde de tous les albums. C'est au lieu de faire une case en plus grand ou une couleur unie, en fait, on met un montage de tous les petits croquis que j'ai pu faire pour l'album. Donc à chaque fois, les gens, quand ils ouvrent l'album, il y a les dessins de recherche. Qui sont vraiment des croquis, donc pas du tout propres, pas du tout finis, mais ça amène encore un peu de, voilà, de texture, de grain à tout ça, pour montrer que ça a été fait à la main.
En tout cas, le rendu est super.
Merci beaucoup.
Mais de rien. On va pas tarder à finir. En général, j'invite les gens à nous parler des projets futurs. Est-ce que tu peux nous dire ce qui va t'arriver à l'avenir sur les futurs projets, ou est-ce qu'il y a du top secret?
Alors, il y a du top secret, mais j'en parlerai pas. Voilà, okay. Je vais parler d'autres choses. Voilà. Et là, le truc qui n'est pas du tout secret, c'est que je vais commencer un album de Mickey dans la collection Glénat. Donc là, je vais rejoindre une collection. Il y a des super titres, des copains qui font du Mickey depuis quelques années. Là. Et donc je vais en faire un avec Joris Chamblin au scénario, qui est le scénariste des Carnets de cerises. Et on va faire ensemble donc, voilà, une histoire de Mickey avec des pirates. Voilà, hyper en compte, j'ai envie de faire des pirates. Et là, il y aura Mickey, des pirates, des animaux, tout ça. Donc ça va, je vais le commencer la semaine prochaine, doucement mais sûrement. Et ça va m'accompagner toute l'année, parce que c'est un gros pavé de 70 pages pour l'instant. Et voilà, donc je pense que ça va m'accompagner déjà toute cette année. Je continue la presse, parce que je bosse pour Spirou régulièrement. Là, je fais des histoires courtes. Là, tu vas me commencer une série gag où j'écris pour l'ami Cyril dont je parlais tout à l'heure. Une série qui s'appelle Pernille, qui a commencé en octobre dernier. Voilà, je continue les histoires courtes, donc le Mickey pendant toute une année. Et puis, je continue de travailler aussi pour le journal de Mickey, Mickey Parade. Je fais des Mickey énigmes. Donc, Mickey et Dingo mènent l'enquête à chaque fois pour trouver des trucs. Et puis, donc, ça fait quand même pas mal de choses. Hein.
Mais quand même, oui.
Donc, ça à faire cette année. Et puis, l'année prochaine, eh ben, quand Mickey sera fini, je partirai sur autre chose. Et là, il y a des projets secrets, évidemment. Mais il y a aussi le projet de refaire un truc avec la gouttière. Je sais pas quoi. Je sais pas quand, mais je sais que j'ai envie de le faire. Voilà. Donc, on verra. Ben, eux aussi ont envie de continuer. Donc, voilà, ce sera pas une suite à Sous les arbres. Ce sera quelque chose dans la même veine, en tout cas, avec le même format. Moi, j'aimerais bien bosser sur les dinosaures, par exemple. Mais ça peut être complètement autre chose. Je m'arrête pas pour l'instant. J'y réfléchirai plus tard cette année pendant que je suis en train de faire les pages du Mickey. Je pense que je laisserai mon esprit un peu vagabonder sur le sujet. Mais pour l'instant, il n'y a pas de piste, à part juste l'envie de le faire l'an prochain.
Ok. Et la question finale, avant qu'on finisse cette interview, souvent la plus difficile, si tu devais convaincre des lecteurs de lire Sous les arbres plutôt qu'autre chose, en quelques mots.
Alors, le truc, c'est que je vais... Là, tout de suite, j'ai envie de frimer la mort. Voilà.
Ça fait.
Je vais essayer de le faire deux fois. Je vais le faire déjà gentiment, posément. Je vais dire... lisez Sous les arbres. Si vous aimez les vieux films Disney, si vous aimez les animaux qui parlent, la poésie du changement de saison... et puis les histoires dans la nature. Voilà. Pour moi, ça, c'est ça Sous les arbres. Et il y a beaucoup de mignonitude partout. Et puis, la version qui frime, ce serait de dire lisez Sous les arbres, parce que les Polonais, les Espagnols, les Américains et bientôt les Allemands vont le faire, alors faites-le avant eux.
Ok.
Voilà. Sous-entendu, Sous les arbres part à l'étranger aussi.
Ah, c'est top, c'est plutôt un bon signe de succès en tout cas.
Oui, c'est un petit succès, attention. La série fonctionne. Voilà, la série fonctionne, mais en tout cas, elle s'exporte. Et ça fait vraiment plaisir, parce que moi, c'est la première fois que j'ai une série qui part à l'étranger. En particulier sur le marché américain, c'est les premiers à prendre le projet. Et alors, du coup, ça m'a rendu fou parce que même si la BD européenne ne marche pas des masses aux États-Unis, vu que la série est un hommage à Disney, pour moi ça représente quelque chose que l'album aille sur les lieux où ça s'est passé, quoi. Voilà. Et puis après, effectivement, y a les versions espagnoles, polonaises, allemandes qui vont arriver, qui sont déjà sorties pour certaines. Et du coup, c'est cool. C'est très, très, très marrant de voir ces personnages parler une autre langue que celle que je leur ai écrite au début. Voilà, donc les personnages ont leur propre vie maintenant. C'est un peu ça.
Eh ben super. Merci Dave.
Et merci Sébastien.
C'était Dave qui nous parlait de son album Sous les arbres, enfin de son de 16 albums. Les 4 albums sont maintenant disponibles en intégralité aux éditions de La Gouttière. Je vous invite à les partager. Alors, j'ai quelqu'un qui me chambrait tout à l'heure sur Instagram, puisque j'ai posé une petite photo, hein, comme je le fais régulièrement, de 3 albums. Oui, parce qu'effectivement, c'est un album qui est beaucoup lu à la maison, que ce soit par ma fille ou par mon fils. Et gage de qualité, ben le dernier album, Le Printemps, qui vient de sortir, mon fils l'a visiblement planqué pour que je ne puisse pas l'emmener à la radio. Donc voilà, donc c'est un gage de qualité, c'est approuvé Made in Seb et Made in Seb Family, et c'est aussi approuvé par de nombreux lecteurs. Et je remercie encore Dave de sa gentillesse pour m'avoir accordé cette super interview. On se retrouve dans quelques instants après une page de publicité. Je suis perdu, je suis désolé. Après une pause musicale avec The Regrets et You're So Fucking Pretty.
Spin the bottle, will that be enough? I know how your kiss would taste even without touch. Is she just a friend or is she going home with you? The walls are shaking, my shoes take me to you. My filter's breaking, can you tell her to move? I think she's in my spot, I'm pretty sure you feel it too. Your fingertips run down my spine. I dream about the curves of you melting into my younger heart was feeling new, but now when I look back I know exactly what I do. You give a little and I fall a little too much. I give a little, I'm too late, you slip from my clutch. In the bathroom you fix your face and you're so fucking pretty. Away. You give a little and I fall a little too
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. J'ai failli vous mettre une pub malencontreusement. Alors, c'est pas beau, hein, c'est pas bien. On est une radio non commerciale. Donc, il ne faut pas mettre de pub. De toute façon, on est déjà tellement submergé de pubs dans tous les sens. Bref. Alors, c'est pas parce que je fais pas de pub que je fais pas de la promo Amigo. Et comme je viens de le faire avec Dave, j'ai aussi un autre auteur un peu plus local. Hein, parce que Dave est d'origine choletaise. Mais là, Saint-Angevin, pure souche. Quoique j'ai pas vu sa carte d'identité, c'est pas grave. Mais il est pas tout seul. Là, je vais vous parler de l'ami Tony, que vous avez certainement entendu il y a de ça quelques temps déjà, hein, à la radio, que ce soit en interview ou lorsqu'il m'embêtait avec des chroniques parfois complètement décalées. Et il a sorti avec un monsieur qui s'appelle Leroy, qui a fait Ésope le loup, que vous connaissez peut-être, une BD pour les tout petits. Et ils viennent de sortir tous les deux, Jimo et les Space PR, Seuls contre tous, et c'est publié aux éditions Kenes. Et là, normalement, la question rituelle c'est, mais Seb, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un équipage de Space PR, je vois pas comment le dire autrement, qui va perdre son capitaine. Et il lègue la gérance de l'équipage de pirates à quelqu'un, mais juste en attendant que son fils soit majeur. Et ce quelqu'un, eh ben, il n'a pas vraiment envie que son fils puisse récupérer le vaisseau et le commandement plus tard, donc il va tout faire pour pourrir la vie du jeune Jimo qui est le fils en question. Donc c'est une saga spatiale, c'est une saga de gag spatial, mais c'est hyper drôle, c'est vraiment très sympa. C'est souvent des gags en quatre cases. Il y a des gags un petit peu en dessous de la ceinture parce que voilà, ça marche à la fois pour Tony et à la fois pour les enfants. Je pense que quand il conçoit ses blagues, il doit se rappeler de ce qu'il fait rire et que forcément ça fera rire les enfants. C'est une blague gentille, je t'adore hein, Tony, soit dit en passant. Et ça marche bien. Les deux compères, que ce soit Tony et Mario ou Leroy, arrivent à faire des gags qui sont à la fois graphiques, avec un trait qui est à la fois drôle, rond, comment dire, c'est bonhomme, ça plaît pour les enfants. Il y a des extraterrestres, il y a des tronches, il y a des personnages qui sont vraiment assez stylés et c'est vraiment sympa. En même temps, on va avoir aussi d'autres petites réflexions. Jimo va découvrir certaines choses. Il a un copain avec lui, il va survivre à tout un tas d'attaques. Mais il se montre beaucoup plus malin qu'un équipage complet de Space PR, ce qui est franchement hyper drôle et ça marche globalement très très bien. Alors moi j'ai juste une question, combien il y a de personnes dans cet équipage? Parce qu'au rythme où il succombe au piège qui ne fonctionne pas envers Jimo et que eux ils meurent, il va plus rester grand monde hein, dans l'équipage pirate. Donc c'est un tout petit ouvrage qui doit être à peu près carré, je suis même pas sûr, mais qui est vraiment vraiment sympa. Voilà, encore une fois je le dis, je le répète, je ne parle pas des ouvrages qui ne me plaisent pas, qui ne sont pas sympas, enfin c'est pas parce que c'est des copains que j'en dis du bien, c'est parce que c'est bien surtout. Et bah voilà, ça plaît beaucoup. Je parlais des de mes enfants tout à l'heure, qui sont le premier gage de qualité de nombreux albums. Et vous savez que les enfants sont parfois très brutales sur les choses qu'ils n'aiment pas. Faut savoir que Jimo et l'espèce pillard, c'est un bouquin qui sort aussi pas mal de la bibliothèque. Donc voilà, c'est aussi un gage de qualité. Je devrais faire un jingle approuvé par mes enfants. Voilà, je redonne les références, c'est Jimo, je suis pas sûr qu'on prononce le J à l'américaine, donc Jimo et les Space Pillars, Seuls contre tous, c'est le tome 1, j'espère qu'il y en aura plusieurs autres derrière, c'est de Tony Emerio et Leroy, et c'est publié aux éditions Kenes, et c'est, encore une fois, je le redis, vachement bien. Puisqu'on est aussi dans les enfants, on a besoin des fois de parler éducation, vers nos enfants, et je suis tombé sur une BD, un manga pour être exact, publié aux éditions Ototo, scénarisé par Kikiki Tataki, oui je sais c'est drôle, et dessiné par Otomura, et qui s'appelle Sexe Éducation 120%. Alors vous allez me dire, oh là là, Seb, t'as encore lu un manga de fesses? Oui et non, en fait, parce que moi j'aime bien la thématique de la sexualité dans la bande dessinée. C'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre, qui est souvent, pour parler vulgaire, casse-gueule, puisque des fois c'est mal fait, des fois c'est trop bien fait, mais c'est pas attractif, c'est pas intéressant à lire, et puis des fois c'est tout simplement un prétexte à avoir des trucs un petit peu très très borderline. Cet ouvrage qui est publié dans la collection MU des éditions Ototo, qui est une collection qui vise à parler du corps et de l'évolution, et ben en fait c'est un ouvrage qui est vachement intéressant. On suit quatre jeunes filles qui sont dans un collège japonais et qui vont avoir des cours d'éducation sexuelle de la part de leur prof de sport. Alors, ne soyez pas surpris, apparemment c'est normal, puisque les profs de sport dispensent aussi des cours d'anatomie et des cours sur le corporel dans les écoles japonaises. Sauf que là, la prof, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop investie et beaucoup trop à fond sur le sujet. Elle pose des questions sans embâge, elle est capable de poser des questions sur la masturbation, sur les règles, sur les poils. Pas de sujet qui lui soit tabou. Et c'est hyper intéressant parce que effectivement les adultes, quand ils vont discuter sexe ou éducation sexuelle avec des enfants, et ben des fois ils savent pas trop comment aborder les choses, ils vont faire des ronds de jambes, ils vont utiliser des mots qui ne sont pas simples à comprendre, des images parfois qui peuvent être mal comprises. Et ben là non, elle y va franco, cash, dès le début, comment dire, dès le début de l'ouvrage, elle va simplement parler de protection, que ce soit les préservatifs, des digues dentaires, les moyens de contraception. C'est vraiment intéressant. Il y a des passages avec des graphiques, avec des sondages, des choses comme ça qui sont intégrées à l'ouvrage et qui sont, super intéressants. Alors là, vous vous dites à ce moment-là, mais ouais, Seb, c'est super, c'est intéressant, mais est-ce que c'est intéressant sur le plan éducatif, mais est-ce que c'est intéressant aussi à lire ? Eh ben oui, parce que justement, il n'y a pas ce tabou, il n'y a pas cette barrière. Alors, les gens vont peut-être considérer que c'est peut-être un peu trop cash parfois, mais ça marche vraiment très bien. Le dessin, il est rond, il est rigolo, c'est du manga, c'est pas du manga pour enfants, ça reste adulte, mais il n'y a pas de connotation sexuelle, il n'y a pas de scène osée, de scène graveleuse dans ce manga, et ça marche vraiment super bien. Donc, lisez-le, donnez-le à vos enfants quand ils seront en âge de comprendre et de se poser des questions sur la sexualité. Ça répondra sans doute à beaucoup de leurs questions. Là, c'est le tome 1, donc j'ai pas regardé, je pense qu'il y a pas mal de tomes, j'ai pas eu le temps de faire un vrai sourcing dessus, mais ça marche très très bien. On va y traiter des sujets tels que l'homosexualité, la masturbation, les protections, les poils, le genre, la normalité culturelle qui, encore une fois, au Japon, peut parfois poser beaucoup de soucis. Et on va se poser plein de questions. Un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que c'est un manga qui s'adresse principalement aux filles, aux femmes. Ce sont des jeunes femmes qui découvrent, qui écoutent une prof parler de sexe. Et encore une fois, sans tabou. Et c'est plutôt, plutôt intéressant dans un monde où on a peut-être un petit peu plus besoin de parler de sexe de la manière la plus positive et la plus normale. Hein. Il n'y a pas de tabou, c'est pas une honte. Hein. On est encore à une époque où il y a certains organes féminins qui ne figurent pas sur les schémas qu'on peut avoir à l'école. Ça fait longtemps, hein, moi, à l'école, mais c'est pas si vieux que ça quand même. Donc un manga très positif, pas vulgaire, qui est intelligent et qui apprend des choses avec du fun, bien dessiné, Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça coche toutes les cases pour être un bon manga et intéressant. Donc voilà, j'ai pas vérifié hein, si les graphiques à l'intérieur sont 100% véridiques, mais à partir du moment où ça vous fait réfléchir et ça vous instruit tout en vous amusant, je vois pas pourquoi se priver. Donc faut y aller, vraiment, c'est vraiment top. Donc Sex Education 120%, c'est aux éditions Ototo dans la collection Mu. C'est scénarisé par Kikiki Tataki et dessiné par Otomura. Et bah ouais, faut y aller. C'est vraiment très très bien. Je vais passer à un ouvrage un petit peu plus, pas contemporain, mais qui est un peu plus de nos latitudes, avec une BD franco-belge. C'est un tome 2. Il s'agit du Pré derrière l'église de Chris et Patty, donc scénarisé par Didier Chris et dessiné et colorisé par Christian Patty. Et ce deuxième tome s'appelle Miss Kelly Penny. Pour ceux qui ne connaissent pas le Pré derrière l'église, je vais vous résumer un petit peu la première histoire et puis vous allez pouvoir on va pouvoir enchaîner un petit peu sur le deuxième. En fait, le Pré derrière l'église, c'est l'histoire d'une petite ville irlandaise qui s'appelle Kilkenny, qui a une petite particularité. Il faut savoir qu'il y a un pub qui est adossé à une église. Donc l'église, c'est une église standard, une église ancienne, irlandaise, et elle a un mur commun avec un pub. Alors ça a suscité de nombreuses passions il y a de ça très longtemps, mais ça a fini par rentrer un petit peu dans les mœurs. Et puis un jour, derrière cette église, il y a un pré, comme dans le titre, hein, vous avez vu ? Élémentaire, mon Sherlock. Et dans ce pré, il y a des moutons. Et en fait, le curé de l'église nourrit régulièrement les moutons. Et il y a des gens qui vont faire des blagues tout à l'heure. Et le curé, en fait, bah, finit par disparaître. Et les moutons vont se mettre à mener l'enquête, à essayer de comprendre pourquoi la personne qui les nourrissait, la voix de Dieu, a fini par disparaître et ne vient plus les nourrir. Donc ça, c'est dans le tome 1. Et ces moutons ont une tendance au mysticisme assez prononcé. Et du coup, ce deuxième tome se passe à la période de Noël et un petit agneau va être déplacé et intégré dans la crèche vivante, comme on peut en avoir beaucoup dans de nombreuses communes. Et quand il va revenir voir ses copains les moutons, bah, il va se passer des choses un peu bizarres, un peu mystiques, que les autres moutons ne comprennent pas forcément. Et du coup, on va avoir de nouveau une scission au sein du troupeau de moutons. Ceux qui croient que le jeune petit agneau a des pouvoirs quasi divins, des pouvoirs de guérison, et les autres un peu plus sceptiques. Et pendant ce temps-là, une autre perturbation arrive dans le village, l'arrivée de la fameuse Miss Kelly Penny. Miss Kelly Penny, c'est la nouvelle institutrice qui va venir remplacer l'ancien instituteur un petit peu vieux. Mais voilà, Miss Kelly Penny, c'est une jeune femme moderne qui vient de la grande ville et qui n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds, ni de se laisser coincer dans des usages peut-être un petit peu vieillots de la campagne. Oui, Miss Kelly Penny, elle est capable d'aller boire toute seule au pub, et ce qui fait beaucoup jaser à la fois les s'habituer du pub et les femmes de ceux-ci qui, elles, n'osent pas franchir la limite du pub. Pourquoi c'est bien ? Bon, déjà parce que c'est super drôle. Les moutons sont complètement niais, sont complètement nigauds. C'est super drôle de les voir émettre des hypothèses mystiques et sont complètement tarés. Ça apporte aussi des petites réflexions sur la place de certaines personnes et puis le poids, on va dire, des traditions. Et il y a aussi un petit gag qui, moi, me fait beaucoup rire, mais que si vous connaissez le tome 1, vous allez... c'est un petit peu une redite, mais c'est un hibou qui est insomniaque. Donc c'est un hibou qui dort la nuit. Enfin, vous voyez, je ne vous explique pas ce que c'est un hibou et pourquoi un hibou insomniaque ne dort que la nuit. Enfin bref. Et un truc qui est vraiment bien en plus, c'est que non seulement c'est rigolo à suivre, c'est très intéressant à lire, mais en plus le dessin est vraiment super. Là ça se passe en hiver, on sent la neige, on sent le froid, les couleurs sont sympas, il y a du gris, il y a vraiment une super ambiance qui se dégage de cet ouvrage, et Christian Patty a vraiment fait un bon boulot de dessin et de colorisation. Ouais, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai qu'un seul regret, et je crois que c'est déjà un regret que j'avais avec le premier tome, c'est quand ça se finit, on a l'impression que c'est fini beaucoup trop vite. Donc, on n'a qu'une envie, c'est de le relire ou de se faire les deux tomes d'affilée, parce qu'effectivement, il y avait vraiment un gros besoin de plus de pages. Selon moi, ça aurait été une histoire qui aurait été faite en plus de pages, avec plus de choses, peut-être un peu plus d'infos sur la fameuse Miss Kelly Penny, même si vous allez voir, il y a encore beaucoup de choses et chacun a des mystères. Et je pense que dans ce petit village de Kilkenny, on n'a pas fini d'en apprendre de nouvelles. Je vais redonner les références. Il s'agit du Pré derrière l'église, le seul tome 2, Miss Kelly Penny, c'est publié aux éditions Soleil, et c'est scénarisé par Didier Chris et dessiné et colorisé par Christian Patti. That's all, folks. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. On va se retrouver dans 15 jours pour une nouvelle case de Seb, avec peut-être d'autres, une autre interview, je ne sais pas encore quoi, en tout cas d'autres BD, du franco-belge, du comics et du manga. N'oubliez pas d'aller télécharger directement le podcast, si vous avez loupé le début de l'émission, dans quelques instants sur le www.radio-g.fr. Je vous laisse dans quelques instants en compagnie de gens qui vont mettre à la fois un gros bazar et qui ont un gros bazar. Ils peuvent déjà rentrer dans le studio s'ils veulent et faire déjà un peu de bruit s'ils le veulent. Non, discret, mince, c'est bizarre. Ah, voilà. Je me suis dit, il est malade. Et oui, je suis tout seul. Eh ben, si, si, c'est mon écharpe. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, et j'espère que vous allez n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
Yeah.